Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1 en FM. Cause Commune, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de ce numéro de Liberté sur Parole, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Mermet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice de ce livre Rouge, Désertons, paru aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Et Wild Project.
Ah oui, d'accord. Co-édition. Bah, vous faites bien de le rappeler. Jeanne, vous avez déserté vous-même. Vous avez décidé d'expliquer dans ce livre ce qu'on appelle déserté, parce qu'il y a aussi les bifurqueurs, En gros, vous êtes ingénieur, vous avez eu un très beau diplôme d'une école dite prestigieuse, qui est polytechnique quand même, c'est pas rien.
Oui.
Hein. C'est donc en 2019 que vous avez eu ce diplôme, et en fait vous avez décidé de ne pas exercer en tant qu'ingénieur, et vous nous expliquez dans ce livre pourquoi. Vous interrogez aussi cette possibilité de déserter, et puis cette aura qu'ont eu après, je crois que c'était en 2022 ou 2023, oui. la fameuse lettre d'AgroParisTech, les étudiants d'AgroParisTech qui avaient fait une magnifique lettre qu'ils ont lue au moment de leur diplôme en disant pourquoi ils refusaient d'intégrer les postes qu'on leur proposait et le monde de l'agro-industrie qu'on leur proposait et le monde en général. Ils ne voulaient pas collaborer à la destruction du vivant, en gros. Je pense que c'est aussi votre démarche. C'est aussi la démarche de plein de monde qu'on entend et qu'on ne voit pas. Vous le rappelez en faisant écho à une étude qu'avait fait le magazine Frustration de notre ami Nicolas Framont sur les déserteurs des classes populaires, des métiers non prestigieux. Et donc vous nous expliquez, puis après ça vous faites dans le livre, on va pas faire tout le plan, mais vous vous intéressez à la guerre et ça je suis très reconnaissante de lire enfin un livre où il est question de ce que nous coûte la guerre en termes écologiques, en termes humains et en termes écologiques aussi, et en termes de sidération, de stratégie du choc qui nous fait oublier en fait toute la trajectoire qu'on promet tenir. Voilà. Et puis vous parlez bien sûr du rapport au travail et ça on l'évoquera longuement. Donc du coup le début de votre livre est consacré à qui nous parle, c'est-à-dire pourquoi ça vous a fait, enfin vous parlez de vous et de votre position d'écrire un livre sur ce thème. Pourquoi c'était important?
Alors pour moi ce chapitre, cette petite introduction là était fondamentale parce que il y a quand même un message que j'ai voulu faire passer dans ce livre, c'était on fait le choix de déserter, on fait le choix de quitter un métier. Pourquoi poser la question, pourquoi on a ce choix? Et pour moi, un message que je voulais vraiment faire passer, c'est genre si on s'engage pour la justice écologique et sociale ou pour l'écologie, pour la crise contre la crise climatique et compagnie. Il faut savoir le faire. Enfin, il faut le faire en se situant avant tout. C'est-à-dire que, et c'est un truc que j'essaie de développer dans le livre, le premier chapitre, c'est de dire, on va avoir souvent l'impression, donc quand on fait partie de ces classes sociales plutôt intellectuelles, privilégiées, etc., peut-être d'agir pour le bien commun, mais parfois, en fait, le bien commun, on sait pas bien ce que c'est, si on n'a pas fait le travail de se rendre compte que l'intérêt général n'est pas toujours général et qu'il y a différentes classes sociales, qu'il y a différents systèmes d'oppression. Et du coup, pour moi, c'était fondamental de dire situons-nous pour comprendre envers quoi, envers qui, envers quoi on agit, dans quel intérêt. Parfois, on peut ne pas s'en rendre compte qu'en fait, on va vouloir agir pour l'intérêt général et en fait, on va continuer à entretenir un peu les intérêts de notre propre classe. Donc, je voulais pas faire passer ce message sans le faire moi-même. Et ça partait aussi du principe de se dire, je veux me situer dans un ensemble de classes, d'origine, de nationalité, de race, de genre, etc. Mais c'est tellement complexe de faire ça. Ça part de son expérience de vie, de ses parents, donc j'ai écrit un peu ce chapitre-là pour tenter de me situer.
Alors en l'occurrence, moi ce que je vois, c'est une jeune femme blanche. Ce que j'ai lu, c'est que vous étiez d'origine de classe moyenne, pas urbaine forcément, pas très urbaine. Comment vous êtes arrivée à Polytechnique? Pourquoi on fait Polytechnique?
Alors moi j'y suis rentrée par la voie donc on appelle ça les admissions parallèles parce que j'étais à l'université à Toulouse. J'ai grandi à Tarbes, une petite ville dans le sud-ouest. Et donc j'étais à la fac à l'université en physique fondamentale et parce que donc voilà, j'ai toujours fait des études scientifiques parce que c'était un peu la facilité, voilà, on nous dit ouvre les portes.
Ne dites pas ça à moi.
voilà, moi j'avais des facilités dans ces matières et quand on a des facilités dans les matières scientifiques, on nous dit il faut faire prépa, il faut ouvrir toutes les portes, il faut aller en école d'ingénieur, c'est un peu la voie royale à laquelle il faut accéder. Moi j'avais pas trop envie de faire de prépa, j'ai fait la fac.
Et déjà vous avez résisté à la prépa.
Voilà.
Je ne peux pas en dire autant. Moi c'était HEC, mais voilà, ouais. oui.
Et donc c'était un peu ce truc de bon ben il y a ces concours accessibles aux gens qui font l'université, je vais essayer, ça ouvre des portes, ouvrons les portes et puis on verra quoi. Ça a toujours été un peu dans cette logique de bon ben qu'est-ce que c'est la suite, et quand on fait des études supérieures, j'ai l'impression en tout cas dans mon cas, c'était à chaque fois un peu quelle est la suite, quel est le semestre suivant, quelle est l'année suivante, quelle spécialité on prend, et il y a pas beaucoup de réflexion, en tout cas moi j'ai pas été
oui, c'était un peu le cliché, réfléchir. C'est la voie de l'excellence, quoi.
Voilà, c'est ça.
La voie de l'excellence, et puis vous serez parmi les élites du pays qu'on vous avez dû l'entendre voilà, à votre entrée à l'école.
Ouais, mais c'était pas très. Alors voilà, mais avant c'était pas très clair. Je savais pas trop qu'est-ce que ça. J'avais pas encore conscience de ce que ça représentait cette école. Mis à part un peu les l'aura de base du prestige. Mon père qui lui a fait centrale, qui a raté les oraux de Polytechnique, qui disait bah oui c'est bien quand même. Vas-y, Bon voilà, mes parents n'ont jamais été à me pousser dans une ou une autre de direction. Ils ont toujours été très soutenants de mes choix, quels qu'ils soient. Mais voilà, mis à part cette aura, j'avais pas trop idée de tout ce système-là d'élite et qui part en fait de base dès le lycée, quoi. Hein, même avant, hein, on va dire. La reproduction sociale, ça part de bien avant le lycée. Et donc en y rentrant, c'était j'ai compris que voilà, la plupart des gens sortaient de lycées parisiens, de grandes prépas de Paris, comme Louis le Grand, comme Ginette, comme voilà, je me rappelle plus les autres, mais et donc Ginette, c'est aussi c'est privé, il me semble.
Ah oui, peut-être, voilà. Je sais pas.
Voilà, donc moi je suis arrivée, j'ai découvert un peu tout ça sur place. On me dit je suis l'élite de la France. Je me disais bon bah d'accord, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est que bien après que j'ai vraiment commencé et surtout avec ce travail, à vraiment approfondir et essayer de comprendre quoi.
Et alors concrètement, vous êtes sortie avec un diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez continué? Vous auriez été ingénieur, et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire vous auriez bossé, vous étiez sur les systèmes électriques, les lignes électriques, c'est ça? Hein,
voilà, alors moi, ma spécialisation, on va dire, donc du coup, j'ai été à la fin de l'école polytechnique, qui est un enseignement très général, hein, j'avais pris énergie du 21e siècle, donc là, c'est assez large quand même. Je suis allée au Danemark pour me spécialiser dans les énergies renouvelables, l'énergie durable, et plus précisément, la gestion des réseaux électriques. Et notamment des gros réseaux dits de transmission qui s'étalent sur toute l'Europe et qui transportent l'énergie, l'électricité sur des grandes distances. Donc, ce que j'aurais fait comme métier, ça aurait été de travailler, par exemple, je pense, ça aurait pu être de travailler à EDF ou à RTE, donc le réseau de transport d'électricité qui gère ce réseau haute tension, pour faire des études, enfin, je pense plutôt de la recherche et développement, des études de scénarios pour la transition énergétique, c'est-à-dire comment fait-on pour décarboner, je mets des guillemets, hein, le réseau et la production d'électricité, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme ligne, comme transformateur, comme champ d'éolienne, comme machin, comme truc. Et notamment, voilà, comment quelles nouvelles technologies les intégrer au réseau et comment gérer les contraintes de stabilité. Voilà. Mais dans mes stages, donc, j'ai pas fait le métier, donc ce métier-là, mais j'ai été amenée à un peu y toucher, on va dire, à travers de stages et mémoires de master. Et donc, il y avait beaucoup de développement, de recherche sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser, algorithmiser, on va dire, la gestion et l'opération des réseaux, donc pour qu'ils soient stables et sécure et safe, mais aussi pour optimiser les coûts des producteurs, notamment.
D'accord.
Donc voilà, il y a vraiment dans la gestion ces contraintes.
Alors, quand vous en parlez comme ça,
J'espère que c'est clair.
Alors, c'est absolument clair. Et on a l'impression que c'est plutôt chouette,
ouais.
qu'on va dépenser moins d'énergie, qu'on va la gérer mieux, qu'on va être dans une moindre consommation, etc. Que ça va être formidable, qu'on va dans le bon sens. Mm-hmm. Alors, quand est-ce que vous réalisez qu'en fait, on va pas tout à fait dans le bon sens en faisant ça?
Alors, c'est un peu du long cours de réaliser tout ça et de comprendre vraiment. Mais disons que voilà, ça, c'est le récit qu'on se fait dans ces labos de recherche, dans les écoles d'ingénieurs. C'est le truc un peu facile de dire. Il y a un problème de réchauffement climatique. Ce problème, il est causé par les émissions carbone. Donc, il faut réduire les émissions carbone. Donc, il faut faire des nouvelles technologies bas carbone. Bon.
Et du nucléaire.
Voilà. Et donc, le nucléaire qui, d'un coup, devient tout vert, tout beau, tout propre. Enfin, qui, ça a toujours été un peu le discours, là. Mais voilà. Donc, ça, c'est le truc un peu, la pensée, enfin, le récit qu'on se fait.
Oui, technosolutionniste. Voilà. Qu'on aime bien, ouais.
Et donc, moi, c'est vraiment ma prise de conscience. Elle a lieu plutôt vraiment à la dernière année de mes études. Enfin, de vraiment l'articuler un peu plus précisément. Parce qu'avant, j'étais un peu, il y a des trucs qui vont pas là-dedans, mais j'arrive pas trop à mettre
le doigt. C'est difficile, hein. C'est pour ça, quand vous en parlez comme ça, on pourrait signer dès demain. En fait, c'est pour ça que je vous fais rentrer dans les détails, parce que c'est un cheminement. J'ai l'impression que c'est plus compliqué pour des ingénieurs, de cette prise de conscience que pour des gens qui sont dans l'agro, qui sont directement les mains dans les pesticides, si je puis dire.
Oui, c'est vrai que l'agriculture, les sujets sont quand même, je trouve, plus faciles à aborder. En plus, c'est l'alimentation, ça vient directement dans notre corps, quoi, que l'énergie, ou c'est un peu plus réservé aux experts.
Oui, puis aime tous avoir chaud l'hiver et avoir de la lumière pour nous éclairer. Donc, on est tous un petit peu... Enfin, bon, ceci dit, on mange aussi, on va presque tous au supermarché. Donc, mais en l'occurrence, on est quand même, on se dit, les infrastructures, comment on ferait sans, on vivrait sans.
Ouais. Alors, du coup, pour moi, déjà, première chose, c'était quand j'étais donc en train de faire des prévisions, de bosser sur les prévisions à 2050 pour atteindre la neutralité carbone, donc avec des modèles et des prévisions de production et consommation sur toute l'Europe, produit par la Commission européenne. Premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était... Mais pourquoi la consommation ne fait qu'augmenter non-stop jusqu'en 2050? Donc, je dis, mais du coup, si c'est pas ça le problème, qu'on consomme trop, qu'il y a trop de nuisances, parce que, qu'il y a un problème de consommation.
Oui, parce qu'on le voit, les énergies, elles ne se substituent pas, en fait, elles s'additionnent, hein. Ça a été documenté.
Voilà, donc ça, c'est bien documenté. Donc, c'était ça aussi. Donc, non seulement ça augmente, et on remet jamais ça en question, mais aussi dans le mix, donc, ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est-à-dire combien on va mettre d'éolien, combien on va mettre de solaire, combien on va mettre de nucléaire, etc. Je voyais qu'en 2050, on prévoyait toujours d'utiliser du charbon, du pétrole, du nucléaire et compagnie, quoi. Donc là, je me disais, mais du coup, comme ça continue à augmenter, il faut augmenter la production, et c'est un truc de prérequis qu'on pose jamais, pose jamais la question, mais pourquoi ça doit toujours augmenter, en fait? Pourquoi il y a cet effet de volume d'énergie qui est immanquable, irrémédiablement...
Oui, pourquoi on ne met pas en cause la croissance avec tous les guillemets qu'on
Il y a cette question centrale de la croissance, et ça, c'est quelque chose qu'en école d'ingénieur, et pas que, c'est un prérequis, et on vient jamais le questionner, quoi. Donc, on doit agir
c'est d'ailleurs
dans ce cadre-là.
Même les scénarios du GIEC, vous le soulignez, le dernier livre de Monique Pinson-Charlot le souligne aussi utilement, il n'y a pas de scénario où on sortirait de cette croissance exponentielle et de ce système capitaliste. En fait.
Voilà. Et donc voilà, moi c'était les premiers trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et ensuite, il y a toutes les questions de c'est bien gentil de vouloir faire des énergies vertes en regardant que les émissions carbone. Mais en fait, le problème qui était très invisible à ce moment-là et qui est quand même de plus en plus dans le discours et qui devient un peu plus communément discuté, c'est celui des matières premières et c'est celui des métaux, des minerais qu'il faut extraire d'un bout à l'autre du monde, et maintenant même en Europe, pour dire que la mine est verte et responsable, ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera jamais le cas, qu'elle soit en Europe ou ailleurs. Donc voilà, la question des quantités incommensurables de métaux et de matériaux qu'il faut extraire pour fabriquer ces nouvelles technologies. Donc, je disais, il y a un décalage, il y a un truc qui va pas. Sur le moment, j'étais pas capable de bien articuler. Et puis, on est baigné dans le discours. J'essayais d'en parler à mon tuteur de stage qui me disait, mais si, c'est super, tu verras, il faut juste arriver à formuler un discours qui est économiquement entendable et rendre rentable toutes ces énergies pour que tout le monde veuille les faire. Et voilà, la croissance verte et tout. Et moi, sur le moment, t'as un peu envie de dire, non, ça va pas, mais tu sais pas trop exactement.
Oui, comment c'est super compliqué. Et puis aussi, on est toujours aussi individuellement impliqué par nos modes de vie, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on n'ose pas trop l'ouvrir, quoi.
Voilà. Voilà. Donc, bon, il y a ça, les prémices, quoi. Et donc, au lieu de continuer à faire des algos d'intelligence artificielle pour gérer les réseaux et optimiser les coûts des producteurs d'électricité, j'ai décidé de déserter ça. Donc, normalement, je devais faire une thèse sur le sujet. Et j'étais au Danemark. Et donc, j'ai pu, grâce au système social danois, avoir une aide qui permet de faire la passerelle entre les études et le travail. Et donc, moi, je me suis dit, on va prendre un peu le temps de prendre du recul. Mm-hmm. Donc, d'où la désertion, que j'appelais pas désertion à l'époque, quoi. Mais...
Oui, à l'époque, vous avez décidé de faire une pause.
Voilà, c'était ça. Et donc, de prendre du recul et d'essayer de comprendre, quoi, en dehors du discours d'ingénieur, du discours de la transition qui met qui fait un zoom et qui met des œillères, quoi, sur seulement le bilan carbone et en ignorant tous les problèmes, parce que là, on est encore sur des problèmes écologiques, quoi, je veux dire. Mais finalement, sur quel système ça repose, tout ça? C'est un système extractiviste, colonialiste, impérial, qui en fait s'approprie des ressources à l'autre bout du monde, ou des nations s'approprient des ressources à l'autre bout du monde, et encore une fois,
éventuellement des travailleurs aussi.
Voilà, et qui dans des conditions de travail qui sont aussi documentées, qu'elles sont quand même intenable. Et donc on en vient encore à la question des conflits armés et de la guerre, quoi, parce que finalement on a voulu dire on déserte la guerre aux vivants dans une savante métaphore, mais finalement cette guerre aux vivants, est-ce que ça serait pas tout simplement un peu la même chose que la guerre militaire avec la production
etc. Ça, donc, le système qui sous-tend cette guerre. Effectivement, vous avez réussi à formuler, notamment dans ce livre, mais je pense que c'est le fruit de beaucoup de réflexions. Et alors, juste pour en revenir à votre désertion, que vous n'appeliez pas comme ça, c'est une désertion douce, sans grand fracas, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait de grand discours, vous.
Non.
Même à votre grand-mère, puisqu'apparemment c'est un dialogue fictif qu'on a dans le livre.
Oui. Non, j'ai fait un petit discours à ma remise des diplômes aussi.
Ah, quand même.
Mais ça n'a pas été médiatisé. J'étais pas dans le... j'avais pas forcément l'idée de le médiatiser à ce moment-là.
Parce que c'était avant, hein.
C'était en 2019.
Voilà.
Oui, c'est ça, on a fait la remise des diplômes en 2019.
Voilà. Et comment vous avez été regardé par votre promo, par vos collègues étudiants en faisant ça?
Et je me rappelle qu'il y avait plutôt des retours assez... assez chouette et encourageant évidemment. Donc sur la remise des diplômes, après on se retrouve un petit peu, moi c'est les gens que j'avais pas vus depuis très longtemps, même des professeurs qui sont venus me dire super, voilà.
Oui, parce que vous étiez en année à l'extérieur, enfin vous étiez au Danemark, c'est ça, donc du coup vous étiez pas en cours tous les jours.
Non, j'étais déjà plus là-bas depuis 2 ans, quoi. Donc voilà, donc sur le moment, oui, la remise des diplômes, c'est vrai que j'avais oublié finalement. Mais après c'est un discours et il y a tous les sujets à creuser, quoi. Et je pense qu'à ce moment-là j'étais encore... Je pense que si je relis ce discours, je me dis c'est mignon, mais bon, évidemment ça reste un peu superficiel. Et donc je pense qu'il y a du chemin qui a été fait, quoi, évidemment. Et donc à partir de là, moi quand je suis revenue en France, j'ai décidé quand même de continuer à interroger ça. Et hop, c'est marrant parce qu'on s'est retrouvés avec d'autres personnes, un peu dans mon cas, dans les luttes antinucléaires, un peu les luttes sur les questions énergétiques et pas que. Et à se dire, c'est marrant, on se cache.
Mais alors, à la fois, vous vous cachez, ce que vous soulevez aussi dans le livre, on en a un tout petit peu parlé au tout début en parlant des classes sociales, c'est qu'effectivement, vous vous cachez, mais quand vous dites que vous êtes polytechnicienne, tout d'un coup, je caricature, on a plus envie de savoir pourquoi vous n'êtes pas en train de gagner 8 000 balles par mois dans une grosse boîte que la nana qui est coiffeuse et qui a décidé d'arrêter de respirer de la merde, produits polluants, et qui vit avec le RSA aussi et qui galère, mais qui a toujours galéré, et simplement elle galère juste un peu plus, mais elle a fait le choix de peut-être mourir un peu plus vieille en arrêtant de respirer tous les produits qu'on met dans les cheveux des gens. Bon, c'est peut-être un peu moins vrai maintenant, mais en tout cas c'est l'image que j'avais des salons de coiffure intensifs, je veux dire. Donc effectivement, il y a aussi ce décalage où les gens d'AgroParisTech, on a beaucoup parlé d'eux, on essaye de voir ce qu'ils deviennent, on s'intéresse à leur combat, alors qu'en fait les gens qui désertent aussi des métiers plus difficiles, enfin, vous l'avez même pas fait, le métier d'ingénieur, donc des métiers pénibles, difficiles, etc., on n'en parle pas.
Ouais.
Pourtant, c'est la même désertion. C'est déserter un système.
C'est déserter, c'est quitter un métier pénible, c'est déserter des conditions de travail, et voilà.
Et,
pénibilité dans le métier
peut-être,
d'ingénieur.
Mais il y a peut-être les gens qui désertent le travail social, par exemple. Parce qu'il y a une perte de sens, parce qu'il y a une maltraitance institutionnelle, les gens qui désertent le métier de prof, pareil.
Ouais. On peut parler aussi dans le service public.
Oui.
Oui, moi j'ai trouvé intéressant justement d'analyser les réactions médiatiques et pas, enfin voilà, et du milieu politique, intellectuel et tout ça, du discours des agros, parce que, et j'ai regardé aussi, quand on regarde les commentaires sur YouTube aussi, je regardais, il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a des réactions hyper contrastées, mais en même temps elles sont toutes un peu fortes, quoi. Soit un truc de ah mais c'est super parce que on n'a jamais eu l'habitude d'entendre ce discours, ces propos ouvertement radicaux par ces personnes, en fait. Donc, je pense qu'il y a plein de gens, un peu tout milieu confondu, il me semble, qui accueillaient la chose avec plaisir, quoi, avec joie, mais en même temps, en disant, bon, c'est bien gentil, mais bon, vous faites quoi ensuite? Et vous allez où? Et si c'est pour aller acheter des terrains
l'argent de papa et maman, et puis ensuite enfin, louer des bungalows.
Alors il y a un exemple d'ailleurs très précis d'une personne qui a fait ça, qui justement dit on fait des tiny house, on construit du, et donc qui fabrique avec des matériaux de on sait pas où, et qui loue ça comme un lotissement à des étudiants et des, enfin bref, voilà, c'est un exemple que j'ai en tête, mais voilà, moi je sais pas tout ce qu'ils font tous ces gens,
voilà, c'est la question, on va peut-être un peu vite, mais il y a deux questions à travers la différence de traitement entre les gens des classes supérieures, voilà, qui quittent, et leur démission est en général médiatisée, et puis ceux qui des classes moins supérieures, ils quittent aussi, peut-être pour des raisons tout à fait louables et aussi tout à fait idéologiques. Faut pas croire que les gens des classes populaires sont tous dépolitisés, c'est pas vrai. Et on se dit, mais alors est-ce que le changement du monde, ça se fera forcément par, et la prise de conscience, elle se fera forcément aussi par des petits bourgeois, quoi. Est-ce qu'il faut attendre les petits bourgeois pour...
C'est ça, moi je trouvais qui était éclairant en analysant toutes ces réactions, c'est que voilà, donc d'un côté on a il faut aller comprendre le déclic écologique, la prise de conscience de ces héros qui refusent un salaire, une position sociale, etc. Puis de l'autre côté, on va demander aux patrons qui pleurent parce qu'ils n'ont plus d'employés dans les restaurants, etc. Donc voilà, de l'autre côté, il y a des personnes avec des déclics écologiques, une conscience et tout, et de l'autre côté, il y a la masse salariale, quoi. Il y avait un peu ça qui transparaissait. Et sur la question des élites, voilà, comme vous le disiez, c'était... je trouvais que il y avait soit les gens qui encensent le geste en disant « mais c'est vraiment génial, ces élites qui décident de changer de vie et de changer de consommation, comme c'est elles qui consomment 10% le plus, voilà, c'est grâce à elles qu'on va, si elles changent de mode de vie, tout va changer, tout va bien se passer, elles vont nous mener vers le droit chemin ». Donc en encensant le geste, mais en le dépolitisant aussi en un sens, parce que si ça se ramène juste à une question de mode de vie et tout, voilà, nous on a aussi voulu utiliser « déserter » parce que ça venait... porter un message de genre, il y a un sens politique derrière, quoi. C'est pas juste pour aller faire notre petite vie ailleurs, bien confortable. Et de l'autre côté, il y avait aussi ceux qui critiquaient en disant mais ces élites refusent de relever les défis avec les industries, les écoles, les universités, voilà. Donc d'un côté comme de l'autre, il y a toujours cette conception que les élites, c'est elles qui vont trouver toutes les solutions, que ce soit par leur désertion, bifurcation, ou que ce soit par en restant dans leurs institutions, là où elles ont leur position légitime d'élite et de décideurs, décideureuses, etc. Donc voilà, je trouvais ça intéressant que ce soit comme... il y avait toujours un peu cette conception que genre c'est cette classe qui va sauver le monde, quoi. Alors que bah, justement, il y a un peu ce truc, et moi ce que j'ai essayé un peu d'amener dans ce livre, c'est « et pourquoi ?» Enfin voilà, ça veut dire quoi refuser cette position sociale? Est-ce que c'est pour aller se dire qu'on a toute légitimité à aller décider ailleurs de ce qui est bien pour le monde et la planète et les autres? Ou est-ce que ça veut dire que c'est peut-être pour un peu justement casser ces schémas, ces représentations et remettre en question nos privilèges? Et voilà, et venir faire des liens, c'est pour ça que je parle du travail aussi, en général, comme un champ de bataille, parce que bah, c'est bien beau de dire on s'en va, mais tout le monde ne peut pas s'en aller. Y en a qui font des choses complètement intéressantes et qui tiennent des positions de résistance depuis leur travail et qui sont fondamentales, quoi. Et comment on fait pour faire les liens, quoi? Comment on fait pour justement se décentrer socialement pour pouvoir voilà, remettre pour pouvoir venir poser la question, quoi, de ces classes sociales, de ces hiérarchies sociales et compagnie, quoi.
On va en parler.
Et de comment on fait ensemble, là, un peu, pour vraiment changer les choses dans des rapports de force, voilà, qui transcendent un peu tout ça, quoi.
On va en parler du travail, juste après un peu de musique. Je crois qu'on a une chanson qui s'appelle « Dans mon un peu de space » ou un truc comme ça. On va écouter ça. C'est extrait d'un disque qui sort pour les 130 ans de la CGT.
Dans le casier à l'entrée, au centre de la pièce, le coin sieste et les jus frais. Un toboggan pour descendre, des escaliers pour monter. Un stylo Big Fantasy, bonne humeur assurée. Le lundi c'est soleil à travers la baie vitrée. La mélodie apaisante des touches de clavier. Le vendredi c'est relâche, on peut se déguiser. Un chapeau pointu en carton recyclé. Le matin d'un météo intérieur à colorier, un tabouret haut inclinable pour rester relaxé, un cactus qui donne l'air, sac à collectionner, un petit mouchoir en tissu quand tu voudras pleurer.
Tournoi de mini ping-pong.
Ah bah voilà, on a failli rater le tournoi de mini ping-pong, dites donc, avec Jeanne Mermet là, qui a déserté. Voilà. Mais alors, on justement, Jeanne Mermet, vous, dans votre livre, donc Désertion, désertons. C'est carrément ouais. De l'injonction, désertons,
paru. Injonction.
Voilà, proposition, en tout cas, c'est votre exemple. Aux éditions Wild Project, et Les Liens qui Libèrent, coédition. Ça, c'est même pas encore sorti. Dites donc, ça sort ouais. Après-demain.
Mercredi, ouais, le 24.
24 après, septembre. Ouais, ouais. Très bien. Et donc, dans ce petit livre, enfin petit, mais un peu costaud quand même, il y a plein de choses. Il y a le récit un petit peu de votre désertion à vous, bon, en tant qu'exemple, mais surtout une grosse réflexion sur pourquoi on déserte. Qu'est-ce qu'on déserte? Comment on déserte? Et puis une réflexion sur le travail, parce que le travail, c'est quand même encore pas mal le lien social, c'est quand même le lieu du collectif. Et du coup, ce que vous interrogez, c'est est-ce qu'on déserte tout seul et après on fait quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de déserter de l'intérieur, si je puis dire, en tout cas de résister, de changer les choses de l'intérieur, de se coaliser, de préparer la révolution, que sais-je encore?
Ouais, ouais, ouais. Bah oui, moi j'ai voulu arriver là-dessus sur le travail parce que bah en fait dans mon parcours de désertion, j'ai eu besoin d'aller rejoindre les milieux autonomes, les bien radicaux, un peu en dehors du système et tout ça. Et après, je me suis dit mais bon, on n'est quand même pas nombreux et on est quand même un peu isolés quoi. Je trouvais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi bah en fait d'aller poser des questions à tout le monde, hein, au monde entier. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu travailles? Enfin, tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? C'est bien? Tu te plais? Ça te plaît? C'est chiant? C'est bref. C'est un peu des trucs que des questions que je pose un peu partout déjà depuis un moment. Et il y avait cette question de voilà, déserter. Moi, ce livre, je l'ai écrit aussi pour dire j'ai pas envie que ce soit un truc de juste encore une fois un choix, juste un choix de métier, mais j'aimerais bien que ce soit. Et si on posait la question de qu'est-ce que ça veut dire déserter collectivement à partir de différentes positions sociales, travail, métier, etc. Pour dire on déserte, on refuse de nuire en fait. Et si et en fait dans le travail, ben déjà pourquoi dire le travail comme champ de bataille, parce que ben c'est tout le monde en dépend, tout le monde en dépend tout simplement. Enfin, mm-hmm. Je veux dire aujourd'hui qui peut ne pas travailler pour vivre, enfin c'est un peu.
Alors
compliqué.
Tout le monde en dépend collectivement aussi,
ouais,
parce
voilà.
Que c'est sur le travail que sont adossés au moins encore en partie un petit peu les cotisations sociales.
Ouais.
Donc c'est ce qui finance l'assurance maladie, ce qui finance la retraite, mm-hmm. Ce qui finance voilà pas mal de protection sociale et l'assurance chômage un petit peu, ce qui fait que voilà, le travail, c'est aussi le salaire brut, c'est aussi le salaire socialisé. Et c'est ça, justement, qui vous parlez du salariat. Déserter, c'est quitter le salariat. Mais si on quitte le salariat, ben, on a quand même besoin de la sécu quand on est malade.
Et oui.
Et là, je trouve qu'il y a un hiatus. Donc, je voulais vous interroger là-dessus.
Ouais, et ben, c'est très intéressant. C'est vrai que ça, c'est un truc que j'aborde pas et que vous m'amenez là, ici. Et en effet, il y a un truc, c'est qu'on déserte, mais on n'arrête pas de dépendre d'un système, quoi. On n'arrête pas de dépendre.
Et pour le plus grand bien, parce que le système de France, il est à l'os et tout, enfin, les gouvernements successifs l'ont rendu à l'os en le dépolitisant, la sécurité sociale qui fête ses 80 ans et qui devrait plutôt être étendue et qui devrait pas passer par tous les systèmes d'assurance privée ou même de fausses mutuelles. Mais en l'occurrence, c'est quand même un système qui est parfaitement enviable, en fait. Enfin, il y a beaucoup d'entre nous qui serait peut-être plus en vie s'il n'existait pas.
Exactement. Et du coup, ouais, c'est ça. Et c'est la question, je pense, que à se poser, c'est peut-être aussi, ben voilà, qu'est-ce qu'on veut défendre, en fait, aujourd'hui. Je veux dire, je l'aborde un peu la question des services publics, plus un peu du point de vue de l'énergie, parce que c'est un sujet que je connais mieux. Mais de dire les gens qui travaillent dans les services publics, qui sont en train de se battre aujourd'hui là pour défendre ces entreprises à la base nationale, qui avec un idéal de accès indifférencié à tous et toutes, conditions de vie de base, prix égal pour tout le monde, voilà. Donc là, quand on parle
big up aux copains de la FNME qui sont quand même productivistes, mais qui veulent un grand service public de l'énergie.
Voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais finalement, ces choses-là, et puis ils se posent aussi des questions. Enfin, moi, ça fait quelques jours là que je rends visite à la CGT Énergie Marseille, qui est en grève depuis le 2 septembre, et avec qui on a ces discussions-là hyper intéressantes sur la transition, sur en fait, c'est quoi, sur leurs conditions de travail en direct et les effets de la privatisation de l'énergie et compagnie.
Et la sous-traitance à outrance.
La sous-traitance sur les questions de précarité énergétique et compagnie. Enfin voilà, ils se posent ces questions aussi. on se pose ces questions et je pense qu'il faut aller se les poser ensemble.
Bien sûr.
Où, comment, quand, ben ça c'est à créer et je pense que c'est pour ça que la désertion, peut-être ce mouvement de désertion, il peut aussi genre venir rajouter, aller ouvrir des espaces de discussion là où il y en a peut-être pas, faire le lien quoi, dire bon ben voilà comment on peut. Moi j'ai décidé de sortir du monde du travail. Je travaille beaucoup mais sans être rémunéré, oui. sans cotiser.
Voilà. Et sans du coup préparer votre retraite, etc.
Voilà,
et enfin en vous privant aussi de droits sociaux auxquels vous pourriez prétendre. Enfin, vous pourrez toujours, j'espère, être quand même soigné si vous êtes malade, mais en tout cas, vous cotisez pas pour votre retraite, par exemple. Et donc, là où je me dis, il y a un petit hiatus, c'est-à-dire que après ça, je pense que c'est peut-être aussi parce que par paresse intellectuelle, j'ai pas encore réfléchi à autre chose. Mais je me dis, bon, ce système de retraite qu'on était quand même beaucoup dans la rue à vouloir le défendre. On était beaucoup à pas croire que c'est en réduisant nos droits qu'on allait le sauver, mais qu'il fallait plutôt l'étendre. Pareil pour la sécurité sociale. On est de plus en plus à se dire qu'il faudrait au contraire étendre ce système de sécurité sociale à l'alimentation, au logement, à l'énergie et à la culture, par exemple. Enfin voilà, ça interroge aussi sur les questions de salaire à vie, etc., de rémunération qui soit décorrélée du travail et peut-être du rapport de domination qui s'y imprime. Donc il y a plein de choses à réfléchir. Et en fait, c'est quand vous dites le travail, quitter. C'est une chose, on peut ne pas quitter et réfléchir à ça, mais c'est difficile de trouver dans l'idéal du temps où il y avait des syndicats très forts, etc. Le travail, c'était aussi le lieu de la socialisation et des luttes collectives. C'est un peu moins le cas. Mais comment on fait justement? Comment on fait pour se parler de tout ça? Bah vous venez à la radio, c'est déjà pas mal.
Bah déjà voilà. Bah bonne question. Comment on fait? Je pense qu'il y a plein de réponses à cette question qui peuvent être les déserteurs, les déserteuses, aller rendez-vous sur les lieux de travail ou les piquets de grève. Sont des lieux où qui sont propices à ça.
Les piquets de grève, absolument.
À venir discuter, à venir soutenir et puis poser des questions et puis se poser les questions ensemble. Voilà. Et d'un côté comme de l'autre, enfin, j'ai l'impression qu'il y a un peu tout ce truc de l'intérieur à l'extérieur, justement du monde du travail, qu'il faut travailler à créer plus de liens, quoi, et de discuter sur ces sujets, quoi. Ben, en fait, oui, comment on fait pour collectivement se créer des filets de sécurité collectifs, parce que c'est ça aussi un peu tout le truc de... Moi, j'ai eu des filets de sécurité. Ce qui a fait que j'ai fait ces choix de vie. Tout le monde les a pas. Et les structures nationales, les services publics, etc., ce sont des filets de sécurité collectifs qu'il faut défendre.
Oui.
Même, peut-être même transformer, améliorer, rien. C'est vrai que je parle de mutuelle territoriale, de bifurcation, je sais pas, où on pourrait se poser des questions de, telle production qui, en fait, fabrique des violences, qui, en plus, a des impacts sur la santé, non seulement des travailleurs, travailleuses qui les produisent, mais en plus des écosystèmes. Est-ce que si on se posait la question d'arrêter certains secteurs, comment on fait pour prendre en charge les gens pour qu'ils ne se retrouvent pas sur le carreau et qu'ils puissent avoir un moyen d'aller ailleurs, de faire autre chose, de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a toutes ces questions, la thune, comment on fait avec l'argent, comment on le partage, comment on l'organise. Je pense qu'il y a plein de choses à renforcer, à défendre, qui existent déjà, évidemment, mais aussi à peut-être inventer, justement, pour se poser ces questions-là et faciliter ces échanges, quoi. Enfin, moi, pour moi, il y a un truc central, c'est... Il y a un moment, il faut faire ruisseler l'argent qui ruisselle que vers le haut, là. En tout cas, qui stagne.
La théorie du ruissellement, elle a tellement été démentie. Faut répartir.
Je veux dire, faut récupérer, là-dessus. Je veux dire, c'est tout. Allons la chercher. Comment on va la chercher, en fait? Parce qu'aujourd'hui, on demande, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches, taxer les riches.
Il y a Zuckman qui est en train de se faire canceler.
Il faut le faire. Mais
genre,
en fait, je sais pas. C'est des questions ouvertes où j'ai pas la solution. Il y a des rapports de force peut-être
à avoir pour
aller chercher tout ça, quoi.
Dans votre livre, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est votre manière de... Voilà, vous auriez fait une excellente journaliste, je pense. C'est peut-être pas trop tard, Jeanne Mermet.
Je suis un peu en train de me reconvertir voilà. dans cette direction.
Bon, ben voilà, je m'en doutais. Parce que vous aimez tellement poser la question, même dans le dialogue que vous dites être fictif avec votre grand-mère, c'est en fait aller vers l'autre, l'interroger. Enfin, il y a beaucoup d'empathie dans ce livre, c'est-à-dire de manière de vous mettre à la place de l'autre, de vous instaurer un dialogue. Et en fait, je pense qu'on crève de pas savoir ce que font les gens, en fait. Mmh. Parce que même, alors, je parlais de moi deux minutes, mais nous, en tant que journalistes, parfois, quand on va voir des gens qui sont en grève dans une boîte, parce que la CGT nous a appelés, par exemple, on y va. En fait, on s'intéresse pas à ce que fabriquent les gens. Ouais. On leur demande pas ce qu'ils font. C'est, ouais, il y a combien qui vont être licenciés, machin, tout ça. Et en fait, on oublie de leur demander à quoi ressemble leur journée.
Ouais, ouais.
Et ce qu'ils respirent, et est-ce qu'ils ont le temps de bouffer, et est-ce qu'ils ont mal au dos, qu'est-ce qu'ils font, et à quoi ça sert. Est-ce que c'est des trucs en plastique, d'accord, mais ça va aller dans quel type de bagnole pour faire quoi? Et en fait, une fois qu'on a posé les questions, les solutions, elles émergent un petit peu. Ouais. Exactement quand vous parlez avec votre grand-mère institutrice. Et puis, vous lui faites raconter un peu l'évolution de son parcours et des enfants qu'elle a eus. Et puis, on se rend compte que c'est dans l'Est, c'est du côté de...
Dans le Jura.
Dans le Jura, voilà. Et du coup, on voit que la transformation industrielle, elle l'a vécue dans ses classes. Le chômage, elle l'a vécue dans ses classes. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'informations, sauf qu'on ne leur demande pas.
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Et c'est... moi, j'ai déjà un peu cette démarche d'enquête depuis un moment parce que je mentionne avec une association qui s'appelle Hydromonde, on fait des enquêtes dans les territoires sur les questions de l'eau. Enfin, il y a ce truc de redessiner un peu les transformations du passé et du présent pour comprendre, pour se donner des outils. En fait, je pense que c'est fondamental d'aller dessiner ces paysages là sociaux, industriels, agricoles, j'en sais rien, dans les territoires, pour réfléchir à ce qui vient après, quoi, et à comment se transformer, pour comprendre comment on peut transformer encore derrière. Et pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de continuer à faire, évidemment, d'aller juste poser la question, tu fais quoi? C'était comment avant ici? Et donc, c'est ce que je fais avec ma grand-mère. Bon, je reconstitue, mais elle a toujours fait j'ai récupéré ses carnets où elle écrivait sur l'histoire de sa petite ville, son village, où elle racontait ses émotions, ses choses. Enfin, voilà, un mélange d'histoire très locale. Et donc, ça m'a grave inspirée pour imaginer ce dialogue. Et en disant, en fait, ça dessine un peu des lignes de tension, peut-être de questions où on peut être en opposition entre générations. Et puis, en fait, laisser les questions ouvertes, je trouvais ça super chouette. Ça m'a fait plaisir d'écrire ce truc parce que ça reste, je sais pas.
Non, mais c'est aussi
toi, tu peux penser ça, moi, je peux penser ça. En fait, je sais pas comment, si, est-ce qu'il y a une réponse unique à tout? Non, mais en fait, juste aller voir et dire, ici, on se pose cette question-là parce qu'on a vécu la transformation de ce territoire comme ça. Ailleurs, on va se la poser autrement, quoi. Et du coup, c'est hyper important. Je pense que, moi, j'aurais fait des scénarios, là, énergétiques, solution unique pour toute l'Europe, pour le monde entier. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Et du coup, on nie complètement toutes les particularités, les réalités territoriales, sociales, qui sont, en fait, je pense, les discussions, elles doivent se faire au plus proche des réalités, en fait, des gens, quoi, pour moi.
Je serais presque d'accord avec vous, mais après ça, ce matin, j'ai lu un truc horrible. Je crois que c'est une université à... Je sais même plus dans le centre de la France qui a fait une étude sur les nuages chargés de pesticides, ah oui, j'ai fait ça. 150, je sais plus. Enfin, et donc on se dit ok, allez, on va aller faire notre petite ferme en bio. Enfin, il va pleuvoir et puis ce sera plus une ferme en bio, quoi. Donc en fait, l'idée c'est que comment faire, quoi? Parce que on peut faire des initiatives, essayer d'être vertueux, essayer de même au-delà de le faire juste dans sa bulle, mais d'essayer d'être des exemples, des choses qui prouvent que ça marche, qu'on peut être une vraie alternative, tatati, tatata, et en même temps un coup de flotte avec toute la pollution et une bonne petite guerre et c'est fini, quoi. Et puis en même temps, des armes chimiques qui sont tellement fabriquées qu'à un moment elles vont être utilisées et que on les retrouvera quelque part. Enfin, il y a quelque chose à stopper globalement, quoi, en même temps qu'on continue à construire des alternatives. Mais comment on arrête ce rouleau compresseur et ça, j'en reviens au chapitre sur la guerre qui est vraiment intéressant dans votre livre, c'est-à-dire comment on si on est dans une logique guerrière de destruction, on sera forcément dans la logique de destruction du vivant. Enfin, on n'a pas fait enfin, le bilan carbone de Gaza, par exemple, le bilan carbone de la guerre en Ukraine, le bilan carbone de toutes ces destructions, bien sûr humaines, hein, et à court et à long terme. Enfin, il y a les morts, il y a les traumatisés, il y a les amputés, il y a les blessés, il y a ceux qui s'en remettront jamais. Voilà, c'est absolument dingue, cette destruction totale, en fait, qu'est la guerre. Et en fait, on continue à se dire qu'il faut pas évacuer l'idée de la guerre, et en même temps, on veut faire de la croissance verte. Enfin, on marche sur la tête, en fait.
Oui. Ouais, j'ai envie de dire, j'en ai absolument rien à foutre du bilan carbone de Gaza et compagnie. Je me dis, si c'est avec ça qu'il faut convaincre les gens qu'il faut pas faire la guerre, c'est qu'il y a un problème, quoi.
Je suis bien d'accord, mais en même temps.
Mais voilà, c'est complètement hypocrite, en effet, parce que, oui, il est énorme, en fait, le bilan carbone de la guerre.
Non, mais le bilan carbone de toute la guerre. On a le culot. En fait, faites pas de budget pour l'écologie. C'est pas bon. C'est bon. Ouais. De toute façon, arrêtez de nous faire croire que vous faites quelque chose. À partir du moment où on a 5% du budget total de la France qui va passer dans l'armement, en fait.
Exactement. Je suis un peu perdue dans ma réponse.
On va écouter un peu de musique. On va écouter un petit Boris Vian, Le Déserteur. J'ai pas pu m'empêcher.
Oui,
mais en même temps, je l'aime bien.
Est-ce que c'est la version originale?
Oui. Je crois. Avec la fin, oui.
Je sais pas si elle existe.
Je sais pas. Ouais, on va voir.
On en discute après.
Je crois que c'est Ils pourront tirer. C'est ça, la version originale.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner. Monsieur le Président, si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront
Vous écoutez toujours Liberté sur Parole sur Cause Commune 93.1. On est ce matin avec Jeanne Mermet qui publie Désertons aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et c'est quoi la coédition? Parce que j'ai pas mes lunettes et que je vois rien.
Wild Project.
Wild Project. Ouais. Alors effectivement, c'était pas la version originale puisque la version originale de Boris Vian, c'est que j'aurais...
Donc à la fin, il dit au lieu de dire je n'aurai pas d'armes et ils pourront tirer. Il dit donc prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer.
Voilà.
Et ça, c'est la version originale de 1954 qui a été censurée parce que c'était pas acceptable de réagir à la violence coloniale, impériale, etc. par de la violence, quoi. Voilà.
Et voilà. Et
il y a des violences acceptées, des violences.
Eh ben, parlons de violence, justement, puisqu'il y a tout un chapitre sur la guerre, sur la guerre aux vivants et sur cette stratégie du choc qui nous fait accepter comme une évidence que le budget de l'armement en France va être bien supérieur à celui de l'éducation, celui, bon, il y a peut-être que celui des aides aux entreprises qui le dépasse encore un peu. Mais comme c'est pareil, voilà, comme on aide les
entreprises. Voilà. On aide les entreprises d'armement, en effet, je lisais là-dessus ce matin, donc la base industrielle de technologie de défense, il me semble, qui sont tout un ensemble de toutes les entreprises d'armement qui fournissent les armes et toute l'infrastructure de la défense française.
Et du maintien de l'ordre aussi.
Oui. Alors je sais pas ça exactement comment ça rentre. Là, j'ai moins les éléments, quoi. Mais oui. Sûrement.
C'est de plus en plus poreux hein, entre les armes et les armes dites non létales. Je pense que tout ça est voilà. Bref, c'est un autre sujet. Mais bon, parlons de cette violence justement qu'on nous impose et qu'on nous fait accepter avec la peur.
Ben voilà, on parlait justement de ces questions de comment vous citiez la question de bah oui c'est global, on se retrouve, on essaye de faire nos petites initiatives et en fait le nuage il est déjà chargé de plein de pesticides et autres substances chimiques. Je pense les violences elles sont généralisées, elles sont déjà là, donc voilà, que ce soit des violences écologiques, de l'intoxication, etc., des violences sociales, des violences coloniales et racistes, en fait elles sont là. Et pour moi, genre, je pense qu'il y a un truc un rapport de force global qui transcende un peu tout un tas de territoires et compagnie qui doit se créer, et ça passe par la reconnaissance de ces violences, de dire ben voilà elles sont là et ce qui a été fait, enfin je veux dire on va vivre avec des déchets nucléaires radioactifs, on va vivre avec des milieux qui ont été complètement modifiés par la guerre et pas que par les industries, etc. Donc il y a un peu tout un truc de on va vivre avec toute une histoire violente, coloniale, raciste, et donc il faut la reconnaître, il faut en parler, il faut, je pense que c'est le début de la réparation, de reconnaître les violences, et pour continuer à tenir des rapports de force, pour dire fin des violences, comment on arrête de les fabriquer ces violences, parce qu'on les fabrique en fait, on les fabrique ici même, voilà, dans notre pays en paix depuis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et en prospérité économique et compagnie, mais qui continue de reposer sur la fabrication des violences, de la guerre et compagnie. Et du coup aujourd'hui c'est crucial aujourd'hui de parler de la guerre, quoi, parce que elle est déjà dans le discours politique depuis des années, même une pandémie, c'est un prétexte pour nous dire qu'on est en guerre, que l'ennemi est là. Mais par contre, dès qu'on veut dénoncer une vraie guerre, un génocide, là, il faut se taire. Et on est des terroristes de dénoncer un génocide. Voilà, qui sont les terroristes, en fait?
Oui, j'ai l'impression qu'il y a un fantasme de la guerre et du chef de guerre chez notre chef de l'État actuel, qui se fait photographier en t-shirt comme Zelensky. non, mais vraiment, qui parle de réarmement démographique, en fait. Oui, il veut envoyer quand même des piou-piou. Hein. Peut-être rêve-t-il d'un état d'urgence qui lui permettrait de se maintenir encore un petit peu. Je ne sais pas quoi imaginer, mais enfin, c'est tellement pathétique, mais dramatique, que c'est très grave. Et on a ce fantasme de la guerre qui semble s'imposer, y compris à des partis politiques de gauche, comme la guerre comme unique solution, ou en tout cas l'armement comme unique solution.
Ouais, c'est toujours le même discours. Pour avoir la paix, il faut faut faire la guerre. Voilà, c'est faux. c'est le discours du développement de l'arme nucléaire pour la paix, pour la souveraineté aussi. Ça, c'est un sujet intéressant. Voilà, la souveraineté nationale. Donc, il faut développer toutes ces technologies pour continuer à rayonner, pour continuer à être dans une excellence technologique, pour faire régner la paix sur le monde. Et non, l'arme nucléaire n'a jamais arrêté la guerre. Elle a juste rajouté encore une fois des violences. Il y a eu, je sais pas combien d'essais, 2000 essais nucléaires jusqu'en 1996. Où on fait péter des bombes à droite à gauche dans des endroits où, soi-disant, il n'y a rien, mais il n'y a pas
mais
rien.
De temps en temps, à Marseille, il y a un petit vent qui arrive et qui est chargé de particules. On se le reprend
oui.
un petit peu.
Oui, voilà. Donc, qui date, c'était le vent du désert qui porte toujours la radioactivité des essais nucléaires. Français dans le désert en Algérie, c'est ça, oui.
Ouais, c'est ça, Les fameuses opérations Gervoise bleue, etc. C'était, oui. Enfin, puis il y en a eu plein d'autres, dans des territoires parfois, de coloniaux, néo-coloniaux, ultramarins.
Pour faire une petite citation justement qui peut être d'actualité de notre cher premier ministre.
Lequel l'ancien ministre de la guerre, c'est
donc
ça. Le cornu.
Voilà. Donc c'est le cornu qui est maintenant premier ministre, qui était donc ministre des armées, de la défense, qui vient faire un petit discours à l'école polytechnique. En mars 2023, je suis en train d'essayer de retrouver le passage, et donc qui incite les polytechniciens à s'engager pour la nation, pour la patrie, etc. En disant que il faut faire développer les technologies de l'intelligence artificielle, que ce sont des technologies qui révolutionneront la manière de faire la guerre. Et de maintenir la paix, alors il y a un truc comme ça, comme l'atome en son temps. Donc, encore une fois, le mensonge du nucléaire, de développer une arme pour faire la paix, il est là, et c'est complètement absurde de dire on veut révolutionner la guerre ou bien on veut faire la paix. Enfin, il faut savoir, quoi. Genre,
ah non, mais les drones israéliens sont très, très bien. Hein. Ils arrivent à tuer des journalistes directement chez eux. Hein. Formidable.
Voilà, maintenant qu'il est Premier ministre, rappelons un peu où on en est. Et je n'arrive toujours pas à trouver
c'est
ce passage.
C'est pas grave, si vous la retrouvez. Mais après ça, pour en revenir au travail, on nous dit, mais oui, mais alors, on fabrique des armes, certes, mais c'est de l'emploi. C'est de l'emploi en France.
Exactement.
Et voilà. Et donc, c'est aussi cette terreur du déclassement, de ne pas avoir un travail, etc., de ne pas être intégré dans la société, d'être marginalisé, d'être stigmatisé. Parce que ça va. C'est une double terreur. Il y a la terreur de l'étranger et de la guerre, etc. Mais il y a aussi la terreur d'être déclassé, d'être un parasite, etc. C'est aussi une idéologie qui est très importante. Il y a tout un chapitre où vous dites refuser de parvenir, mais il y a aussi cette peur de tomber, en fait, qui est chez beaucoup de monde en France et peut-être chez moi aussi. Non, mais vraiment.
Oui, une fois qu'on a accédé, si on a pu accéder à une autre position sociale, à une des meilleures conditions de vie.
Juste survivre, en fait.
À survivre. Non, mais voilà, en effet, pourquoi aller faire le choix de refuser ça, quoi? C'est clair, c'est là tout le truc de se situer aussi, de savoir d'où on vient.
Mais comment on se rassure? Parce que c'est ça, j'aimerais qu'on termine. Comment on se rassure? Mais comment aussi des parcours comme le vôtre ou comme d'autres ont démissionné, qui arrivent en fait à s'en sortir, à inventer d'autres choses, à faire des métiers socialement utiles, même s'ils sont très mal payés, et à contrer en fait la maltraitance institutionnelle qui est souvent liée dans ces métiers. Ouais. Comment aussi parfois on peut être à peu près heureux, c'est un terme un peu bizarre, mais être voilà, en bonne intelligence avec soi-même, en n'étant pas dans un système ou en y résistant assez radicalement.
Bah, comment on se rassure ? Moi, pour moi, j'ai pas de réponse pour tout le monde. Hein. Pour vous dire, je suis retournée travailler en tant que prof contractuelle parce que j'en pouvais plus de galérer et que j'avais besoin de, comme on le disait, d'avoir l'assurance, d'avoir un salaire tous les mois. Et je pense comment on se rassure en luttant, enfin en fait en se
mais
retrouvant
prof contractuelle,
en
donc il y avait des gens en face de vous qui ont pris un petit peu de vos engagements quelque part, comme ça, bah, comme dans les petits nuages.
Qui sont déjà aussi bien engagés, hein, franchement, voilà, il y a quand même un bon vivier de personnes engagées dans l'éducation nationale, salut à elle et eux. Et donc ouais, comment on se rassure, bah, je pense en faisant du collectif, quoi, en luttant, en se mobilisant, enfin c'est comme on le disait, oui, le monde du travail, c'est ce qui donne accès à des conditions de vie, enfin à juste vivre, c'est ce qui donne accès à une dignité aussi, enfin je veux dire, c'est par là qu'on se définit socialement, sociétalement, enfin dans la société, quel est notre rôle, etc. Et je pense que c'est fondamental de venir remettre du collectif là-dedans et de se relier. Et j'irai enfin plus loin, c'est pour moi déserter collectivement, c'est se relier de l'intérieur à l'extérieur du monde du travail pour dessiner cette trajectoire là de désertion collective, de dire venez, on reconnaît les violences qu'on subit, qu'on fait subir, et on essaye de déserter, de déserter ensemble, quoi, de dire on veut plus fabriquer ces violences, on veut plus les maintenir et les subir, les fabriquer et compagnie, quoi.
Et on peut vivre quand même.
Et voilà.
Et
peut...
pas si mal.
Ouais.
Peut-être.
Ouais, ouais. Bah oui, écoutez, moi j'ai passé... c'est des choix aussi, hein, de rejoindre certains milieux qui font que... Moi j'ai pu vivre 2 ans au RSA en n'ayant pas de loyer parce que j'étais quand même... J'étais nomade, donc j'allais un peu dans plein d'endroits différents, dans des lieux collectifs où on met en commun la gestion de la nourriture. Donc en fait, ça permet de vivre avec peu. Et oui, ça existe. C'est vrai que c'est des milieux un peu marginaux, mais ils sont là. Et il y a quand même des... Enfin, encore une fois, c'est aussi d'autres filets de sécurité collectifs qui existent. En dehors aussi des structures sociales, étatiques, nationales, quoi. C'est là aussi. Et ces alternatives, elles existent, quoi. Et maintenant, c'est comment on relie tout ça, quoi, pour continuer à renforcer tous nos... Enfin, renforcer nos rapports de force, quoi. Et aller vers la fin des violences, justement.
Voilà, mais peut-être que de se parler, déjà, d'être curieux, ouais, des autres et de leurs expériences, ça permet de se sentir moins seul, donc mm-hmm. d'avoir moins peur. Et peut-être de résister ou de bifurquer ou de déserter plus facilement, voilà, parce qu'on n'est pas seul, en fait.
Ouais, exactement.
Et ben, c'est ce que j'ai appris dans votre livre, Jeanne Mermet. Merci beaucoup. Ça s'appelle Désertons. Le cherchez pas encore aujourd'hui, ce lundi 22, mais dès après-demain, vous allez pouvoir le trouver. Est-ce que vous faites une présentation du livre quelque part
Alors, il y a... Pas encore. On n'a pas. J'ai un tout petit événement vendredi soir.
À Paris.
Ouais, à la gare XP à mairie Port des Lilas. Je vais y arriver.
Oui. D'accord. Vendredi soir. Voilà. Donc vendredi, on sera le. Je ne sais plus quand, mais on sera. Le 26.
Le 26. Et sinon, il y aura d'autres événements à Marseille.
À Manifestone, à Marseille
Je ne sais pas encore, bientôt calé. Mais en tout cas, voilà, je me lance dans un petit média sur les réseaux sociaux. Suivez ma page Instagram, Désertons.
D'accord, ok.
Et donc, on annoncera, voilà, on va continuer les enquêtes, raconter les choses du livre, faire des interviews et compagnie. Donc, ça suit l'actu là-dessus, quoi.
Très bien,
l'actu
merci.
De la désertion.
Pardon. Voilà, merci beaucoup, merci. Jeanne Mermet. On se quitte en musique.
Ah bah non, laissez mourir dans le coffre en fait. Non. 7, 8, 4, 7, c'est trop. Genre, tu sais pas.
c'est juste ton cha-cha-cha, ton bla-bla-bla. Oh, nous, ce que t'as volé, fais pas genre tu sais pas. J'aimerais bien que vous rendiez l'argent, s'il vous plaît. Un peu. Un tout petit peu.